grande vague humaine a déferlé sur New York, ce havre séculaire des migrations énormes et misérables. Et ces derniers venus, dans leur dénuement, dans la peur que leur inspirait la monstrueuse ville inconnue, dans la conscience qu'ils prenaient aussitôt d'être méprisés, refusés, rejetés, sont allés par instinct et par nécessité à la partie la plus pauvre, aux taudis les plus affreux de Harlem. C'est là qu'ils s'entassent et qu'ils vivent les uns sur les autres, cité dans la cité, nation dans la nation. Les rues qui délimitent strictement ce pays clos sont autant de frontières rigoureuses. Et les habitants de Spanish Harlem, du Harlem espagnol, sont coupés de toute communication avec l'extérieur. Leurs voisins immédiats, les nègres eux-mêmes, les écartent avec dédain. Car eux, les noirs, ils parlent tous la langue de leur patrie. Ils ont donné aux États-Unis des acteurs, des chanteurs célèbres, des mélodies impérissables et, de plus en plus, des avocats, des diplomates, des médecins, des soldats, des journalistes, des écrivains de valeur. Ils comptent parmi eux des millionnaires. Bref, ils sont de vrais Américains. Tandis que ces étrangers, ces va-nu-pieds, ces portoricains, les spectateurs avaient repris leur siège. L'orchestre préludait au dernier acte de West Side Story. Au gré de la musique et des chants et des danses, les images du Harlem espagnol se levaient de nouveau dans ma mémoire. J'étais entré dans un bar, pareil à beaucoup d'autres répandus à travers New York, éclairé au néon, en plein jour, parce que la lumière n'y entre jamais, avec un comptoir chromé et une énorme machine à disques. Mais les disques n'étaient pas de jazz ou de rock'n'roll. Des guitares jouaient des flamencos, ou des airs mexicains, ou des chansons cubaines. Mais on voyait au mur une affiche de course de taureaux qui s'était déroulée au Venezuela. Et chez les hommes et les femmes, il y avait une sorte de chaude indolence, et entre eux comme une amitié, un pacte de sang. Quand ils me virent, il se fit un grand silence. Je n'appartenais pas au quartier, au Harlem espagnol. J'étais l'étranger, l'intrus, l'ennemi. Je m'assis aussi loin que je pus du comptoir, commander une bière. Les disques tournaient l'un après l'autre. La conversation reprit, on m'avait oublié. Ce lieu ne semblait pas appartenir à New York, mais à un port de la Méditerranée, ou mieux, des Antilles. Aucune des figures assemblées autour du comptoir n'était vraiment blanche. Leur teint allant du beige au marron et du marron au brun très foncé. Et davantage encore les brèves ondulations frémissantes et si justes des corps qui suivaient le rythme de la musique trahissaient en eux la part du sang nègre. Mais lequel de ces portoricains en eût convenu? C'était leur honte, c'était leur damnation. Ils avaient été autrefois espagnols, ils étaient maintenant américains et ne voulaient rien savoir d'autre. La serveuse m'apporte une bouteille de bière. Grasse, la bouche épaisse, le nez camu, elle avait des cheveux teints en blond jaunâtre et une couche de crème profonde sur les joues. Et je me rappelais avoir lu que toutes les femmes caraïbes de l'île, alors qu'elles étaient enceintes, frottaient leur ventre de poudre de talc afin que leur enfant vînt au monde aussi blanc que possible. Parmi les hommes qui se tenaient contre le comptoir, on en remarquait un très jeune, dont les membres, la nuque, le torse, les épaules tressaillaient si fort au fil de la mélodie que chaque note semblait toucher un nerf à vif. Il avait les yeux vagues, absents, égarés. Il était visiblement sous une influence toxique d'une autre nature que celle de l'alcool et, parce que la couleur de son visage approchait du noir pur, je me souvins encore avoir lu dans le même livre que chez les adolescents du Harlem espagnol ravagés par l'usage de l'héroïne, la plupart avaient la peau très sombre. Je m'en allais bientôt. Il faisait dehors une chaleur humide, accablante. Était-ce ma solitude ou les impressions que j'emportais du bar, mais, sous le charme exotique et les couleurs aimables du quartier, je découvrais une détresse effroyable. Des escaliers obscurs s'échappait l'odeur des logis surpeuplés et sans hygiène. Dans les cours s'amoncelaient des poubelles débordantes et, à même le sol, des piles de détritus. Près d'une bouche d'incendie s'ébattaient des enfants à demi-sauvages, filles et garçons. Ils avaient libéré le jet d'eau et s'aspergeaient mutuellement. Mais comme cette douche était interdite et que les policiers avaient la main lourde, d'autres faisaient le guet. C'était déjà une bande. Je débouchais sur une rue plus large et là, un spectacle singulier m'arrêta. Sur le trottoir, une dizaine d'hommes jouaient aux dés et aux cartes avec passion. Contre le trottoir était rangée une longue, puissante et superbe voiture, le plus luxueux, le plus neuf des modèles américains, avec ses chromes étincelants, avec ses immenses ailerons de requin. Et sur le bord du trottoir, sur une chaise de métal pliante, était assis un portoricain, habillé de vêtements un peu voyants et très coûteux, qui surveillait les jeux d'un dur regard immobile. Et je pensais alors à ce qu'on m'avait raconté des grands trafiquants d'héroïne, de femmes et de jeux clandestins que, dans ce ghetto de misère, de peur et de haine, enrichissaient monstrueusement le besoin d'oubli. J'étais arrivé à Park Avenue. À cet endroit, elle n'avait plus rien du faste et de la beauté que lui donnent dans sa partie riche les gratte-ciels étincelants dont chaque alvéole est occupé par un bureau ou un logement de millionnaire. Ici, Park Avenue était entre des maisons sans joie, pauvres, tristes et sales. J'allais traverser lorsque je vis venir un taxi qui roulait vite. Je m'immobilisai pour le laisser passer. À cet instant, quelqu'un me saisit par l'épaule et me jeta presque sur la chaussée. Le taxi stoppa, tout frein grinçant. L'homme qui m'avait poussé était un blanc, pauvrement vêtu et ivre. Mais il me dit avec un geste de mépris souverain vers le chauffeur « Les Américains d'abord !» Je m'aperçus seulement alors que le chauffeur était portoricain. De la fosse de l'orchestre, la musique jaillit en crescendo. West Side Story approchait de sa fin tragique. J'oubliais tout pour la beauté violente du spectacle. Si l'on cherchait un équivalent français, il faudrait imaginer que Georges Auric ou Francis Poulenc, Roland Petit ou Serge Liffard, Anouilh ou Salacrou ont traversé ensemble avec passion un drame lyrique dont le sujet serait la rivalité mortelle entre une bande composée de jeunes Algériens et une autre formée par des garçons et des filles des rues de Paris aux confins de la Goutte d'Or, et cela représenté au Châtelet ou à Mogador.
Et la misère n'a pas d'âge. Hein.
Bah oui.
En tout cas, c'était vraiment un fin observateur hein, de tout, tous les pays, tous les endroits où il a pu aller.
Bah oui, oui, oui. Alors voilà, on vous a fait voyager un peu hein, entre les bas-fonds de New York, les rues de Kaboul.
Ouais, en une heure, un peu plus d'une heure.
Voilà. Hein, donc c'était. Et puis la Chine aussi, voilà. Donc, alors il a écrit plein d'autres romans, enfin, ou nouvelles livre, hein, ouais. sur la Russie aussi. J'avais trouvé une très belle histoire, voilà, russe, mais bon, c'était un peu long.
On a un format, on doit respecter.
Ça, voilà. Déjà là, on a dépassé un peu, voilà. Alors, donc, pour finir, donc, Joseph Kessel meurt d'une rupture d'anévrisme le 23 juillet 1979 à Avernes, quelques mois seulement après son épouse Michèle, donc, qui est morte à Collioure en décembre 1980. C'était pas après, mais avant.
Mais avant, plutôt, voilà. on aura remis dans l'ordre.
Voilà. Donc, bon, alors il a eu tout un tas hein, de décorations, de prix, voilà. Alors, au total, entre 1922 et 1975, il est l'auteur quand même de plus de 80 livres, de nombreuses adaptations et de scénarios, de dialogues pour le cinéma et pour la vie de télévision, voilà.
Oui, une grande capacité d'écriture, parce que les voyages prenaient quand même beaucoup de son temps. Moi, je me demande toujours comment il faisait. Hein. Ça devait être tous les jours, probablement.
Il devait toujours avoir sa valise prête à partir. Bien, bon, on va vous souhaiter de bonnes vacances à vous. Alors, voilà. Je ne sais pas où vous allez.
Des voyages peut-être pas si lointains, voilà. mais parfois. Voilà. Je crois qu'il a. Alors, je n'ai pas la citation exacte, mais il disait aussi qu'on pouvait voyager en restant tout près de chez soi. Donc, c'est étonnant de sa part, mais il y a une phrase dans ce goût-là.
Bien, alors, bonnes vacances à tous et à la rentrée alors, prochaine.
La rentrée, on ne dit même pas ce que ce sera, hein, on verra.
Non, voilà.
Une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots.
m'apprécies, tu m'apprécies. Dans tes scènes, amène la poussière, tu m'apprécies, tu m'apprécies. Je te hais, mais je me ferai papier carbone.
Je brûle sous mon ombrage. Écoute, je vais te dire un truc, Jérôme. Il y a une expression américaine en anglais qui dit « Rock and roll is dead ». Ce qui veut dire « Le rock and roll est mort ». Mais c'est pas vrai. Le rock and roll n'est pas mort pour ceux qui sont rock et qui sont pas morts. Tu comprends ?
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif. À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.
Only time can tell the answers that are held deep inside the well of our minds and of ourselves. What is there to do? What is there to know? What is there to grab a hold of in a world like this? What is it that I miss? Why do I exist? These answers I am seeking. Cause I'm alone breathing in my room. I'm being in my tomb. Pray that I will rise. Again I know I'll rise. Again.